Cette mini-intervention va être en partie largement improvisée. Ce que je vais dire est le fruit de mes insomnies, puisque ne pouvant prévoir ce qui aurait lieu et serait dit dans ce colloque, j'ai donc réagi essentiellement en notant au fur et à mesure un certain nombre de choses qui étaient dites. Et hier soir, un petit peu, j'ai essayé de structurer un petit peu tout ça. Mais enfin, vous pardonnerez le caractère, je dirais, largement improvisé de ce que je vais dire. Alors, moi, je vais réagir au fait que, un petit peu comme l'a dit déjà Michel Morange hier, la notion d'intégration telle que on l'a, je dirais, utilisé tout au long de ce colloque, est évidemment très polysémique. On a utilisé ce terme en divers sens. Alors, le mot intégration, c'est d'abord un mot qui vient du latin, hein, integer, integra, integrum, qui signifie entier, initialement, qui a donné naturellement intègre, intégration, intégrale. Ce terme donc semble signifier qu'il s'agit, lorsque l'on pense en termes d'intégration, de réunir, de rassembler en un nouveau tout, hein, en un nouveau tout dont on suppose l'entièreté, différentes fractions dont on suppose qu'elles vont s'adapter, s'harmoniser, recoller les unes avec les autres, ou se fondre éventuellement les unes dans les autres, hein, comme dans le processus mathématique de l'intégration où les différentiels donc sont fondus les unes dans les autres, en tout cas dans le calcul de la primitive. Alors, le premier sens auquel on a parlé de l'intégration, si je reprends un petit peu les choses historiquement, les premières conférences m'ont semblé parler d'intégration dans le sens suivant. Il s'agissait d'utiliser différentes ressources de connaissances via les possibilités que donne aujourd'hui l'informatique de connecter différents types de données. Ça a été très clair, en particulier dans la conférence d'Hermann von Tilburg. Et je pense aussi que lorsque M. Rollin, plus récemment aujourd'hui, donc, nous a montré comment l'exobiologie fédérait de nombreuses approches sur la recherche de la vie ou des signatures biologiques présentes ou passées dans l'espace, avec une recherche sur les différents ingrédients de la vie qui mobilisait beaucoup de disciplines, de la géologie à la microbiologie, en passant par la chimie et la géochimie, on était, me semble-t-il, dans le même registre de sens de la notion d'intégration. Deuxièmement, je crois qu'il s'est agi aussi de coordonner différentes disciplines et même d'appliquer certaines d'entre elles, certaines avancées de la science, par exemple les nanotechnologies dont on a parlé cet après-midi mais dont on a parlé ce matin de différentes façons et encore d'une autre manière, je dirais hier, dans la mesure où on a même commencé par là, c'était d'application qu'il s'agissait. Donc, il s'est agi là d'appliquer certaines avancées de la science à d'autres disciplines, par exemple la médecine ou l'élaboration de médicaments. C'était tout à fait significatif, hein, dans les conférences de M. Couvreur et de M. Vassal. L'après-midi d'hier, on a plutôt évoqué, me semble-t-il, des problèmes de modélisation avec des intégrations qui portaient cette fois-ci tantôt sur des objets, alors par exemple les rythmes circadiens de M. Goldbetter, ou bien les chromosomes de M. Kepes, Donc il portait tantôt sur des objets, tantôt sur des méthodes. Alors les fameuses techniques en omique, génomique, etc., de M. Moreau-Gaudry, et qui incluaient encore des processus de généralisation. Par exemple, le passage de la connaissance qu'on peut prendre d'un virus et de son comportement quand celui-ci franchit la barrière d'espèce. Les recherches de M. Yahya Chebloun, par exemple, étaient directement liées à cette question. À la suite de cela, on a fait un premier bilan, donc avec l'intervention tout à fait magnifique et intéressante de M. Morange, qui a parlé ensuite donc d'intégration en un sens historique et épistémologique, dans une conférence qui personnellement m'a rappelé un petit peu la théorie philosophique de Gaston Bachelard. Je rappelle que Gaston Bachelard soutenait qu'en histoire des sciences, il y avait à la fois des ruptures et puis aussi des processus de coordination et d'intégration, dont il a donné différents exemples. L'un de ses exemples les plus célèbres, c'est celui qu'il mentionnait à la fin de son livre intitulé « Le rationalisme appliqué », qui portait sur un phénomène physique, assez localisé mais très significatif. Vous savez tous que lorsqu'on chauffe un corps, il se produit différents phénomènes à la fois d'ordre thermique, d'ordre mécanique et d'ordre électrique, qui peuvent être coordonnées. Ce qu'on appelle le schéma de Caddy, que Bachelard retraçait dans ce livre, c'est cette coordination triangulaire qui intervient entre la pyroélectricité, la piézoélectricité et la thermoélasticité, qui sont des visions différentes mais complémentaires du même phénomène. Et donc Bachelard parlait à propos de ce schéma de, je cite, « physique topologique ». Et c'est le point de départ, me semble-t-il, d'une réflexion sur les modèles et même de l'idée peut-être d'une théorie générale des modèles. Lorsque René Thom, par exemple, qui a mentionné d'ailleurs M. Morange dans son intervention, lorsque René Thom a écrit son premier ouvrage « Stabilité structurelle et morphogenèse », en 1972, je rappelle que le sous-titre était « Essai d'une théorie des modèles ». Alors là, bien sûr, l'ambition était évidemment beaucoup plus grande que dans le livre de Bachelard, puisqu'il s'agissait de proposer un unique formalisme, hein, celui des modèles continus, et de la topologie différentielle pour naturellement intégrer toutes sortes de phénomènes biologiques et physiques de type dynamique. Enfin, quand on a parlé hier d'intégration verticale avec M. Podjial en particulier, et puis la question des différentes échelles de phénomènes en écologie, on était là, me semble-t-il, plutôt du côté de la théorie des systèmes, ou alors, lorsqu'il y a des phénomènes d'invariance d'échelle, du côté des structures fractales, dont on n'a pas beaucoup parlé, me semble-t-il, dans ce colloque, mais que les géographes, par exemple, utilisent aujourd'hui tout à fait couramment. Alors, sur le fond de toutes ces questions relatives à l'intégration, hein, d'objets, de disciplines, de méthodes, de démarches, etc., il me semble que le problème qui a paru surgir, en particulier de la conférence de M. Morange, lorsqu'il a parlé de coordonner ou d'articuler différentes méthodes, plutôt que de réfuter l'une par l'autre dans un cadre de type popérien, eh bien, le problème qui m'a paru surgir à ce moment-là, c'est à mon avis qu'il me semble que les deux attitudes existent dans l'histoire des sciences et qu'elles correspondent à des moments différents. Et je crois qu'elles sont, malheureusement ou heureusement, toutes les deux nécessaires, mais je ne crois pas qu'on puisse complètement éliminer l'idée que, de temps en temps, il faille réfuter un certain nombre d'approches. Je crois qu'il faut à la fois éliminer de temps en temps, hein, c'est ce que Bachelard appelait l'histoire périmée, et intégrer naturellement ce qui est bon, ce qui est correct, ce qui va s'inscrire effectivement dans ce qu'il appelait au contraire l'histoire sanctionnée. D'autre part, je pense aussi que tout n'est peut-être pas coordonnable. Hein, de la même façon qu'en gastronomie, on ne mélange pas un bon vin et un mauvais vin pour faire quelque chose qui serait un vin moyen. La plupart du temps, ça fait au contraire un vin tout à fait détestable. Eh bien, de la même façon, je pense qu'on ne peut pas non plus mélanger toutes sortes d'approches sous prétexte qu'il faudrait rester consensuel. Bon, d'autre part, il arrive que d'apparentes coordinations résultent en fait d'un processus inventif qui renouvelle complètement le champ. Par exemple, la théorie de l'onde corpuscule de Louis de Broglie en physique, ça n'est pas la juxtaposition d'une théorie ou d'une perspective corpusculaire à la Newton et d'une théorie ondulatoire à la Huygens ou à la Fresnel. C'est tout à fait autre chose, c'est un nouveau cadre hein, qui a été dessiné. De même que la théorie de l'espace-temps d'Einstein-Minkowski, cela n'est pas de l'espace plus du temps, c'est un formalisme là aussi entièrement renouvelé. Je pourrais en dire autant des géométries non euclidiennes qui intègrent la géométrie euclidienne comme un cas particulier, mais dans une espèce de pangéométrie entièrement renouvelée dans son formalisme. Alors voilà des types d'intégration que j'appellerais pour finir historiques et qui démontrent, me semble-t-il, l'existence d'une sorte d'extension progressive de la rationalité que d'ailleurs, me semble-t-il, les exemples des cosmologistes, des astrophysiciens de ce matin n'ont fait que confirmer. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la question. Je terminerai un petit peu alors en improvisant complètement, puisque ce que je vais dire maintenant résulte de ce que j'ai entendu ce matin aujourd'hui. Il me semble, si je reprends par exemple la très intéressante communication d'Étienne Guyon, que ce qu'il a développé, c'est une illustration de tous ces problèmes d'intégration, et en particulier de l'intégration d'une démarche multiple, hein, la démarche 3M, micro, macro, méso, dont il a parlé, sur, au fond, l'illustration des milieux granulaires qui sont à eux seuls, finalement, tout un terrain de processus intégratif. À la limite, on aurait pu prendre ce sujet comme thème général du colloque et retrouver à l'intérieur même de ce terrain les différents problèmes qui se sont posés dans les différents champs. On a à la fois des processus intégratifs qui portent sur les objets, le modèle du tas de sable est déjà complexe, hein, les interactions sont multiples, les effets browniens, éoliens, aussi bien que les frictions constituent déjà des éléments à intégrer. Le désordre est très difficile à décrire. Il faut naturellement résoudre beaucoup de problèmes d'intégration pour rendre compte de phénomènes du tas de sable ou de comme celui du tas de sable ou de l'avalanche ou le mouvement des dunes, etc. Et puis on s'aperçoit aussi que il y a beaucoup de disciplines qui peuvent être convoquées pour résoudre ce type de problème. Et j'en dirai autant naturellement en ce qui concerne la question de la cosmologie, où on a vu à travers la conférence donc de Pierre Bintruy l'extrême pluralité d'échelles de la cosmologie et la multiplicité des compétences théoriques et expérimentales qui sont à la base du dialogue difficile des astrophysiciens et des physiciens. Et on a vu là aussi que des échelles différentes conduisent l'une à l'autre, hein, puisque l'infiniment grand conduit à l'infiniment petit quand on remonte le temps. On est dans le micro avec la question du fond cosmologique micro-ondes, mais aussi à travers cette empreinte, on accède à une vision tout à fait globale de l'univers 400 000 ans après le Big Bang, c'est-à-dire au moment où il devient transparent. Et de la même façon, la théorie de l'inflation permet, je dirais au niveau grande échelle, de donner sens aux minuscules fluctuations quantiques qui ont été révélées, par exemple, par le satellite Kobe. Et on voit à travers ces exemples donc, la coordination qui peut exister donc, entre ces différentes échelles et comment l'une, entre ces différentes échelles de phénomènes et comment l'une peut conduire à l'autre. Alors, je trouve que effectivement, tous ces exemples, finalement, sont partiellement redondants. Je crois qu'il a été tout à fait important quand même qu'on sorte d'un seul champ de façon à précisément révéler cette répétitivité qui témoigne finalement d'une certaine constance de problème hein, au-delà des différences disciplinaires. Voilà en gros ce que je pouvais dire de façon, je dirais, encore une fois, semi-improvisée sur cette question. Et pardonnez-moi si cet exposé n'a pas eu tout à fait la clarté des exposés précédents. Je peux peut-être reprendre dire quelques mots sur l'exposé donc, que je n'ai pas fait, qui était prévu. Donc, j'avais prévu de parler initialement des classifications. Je voudrais dire juste deux mots sur cet exposé dont je laisserai le PowerPoint à Jean-Louis Martinan de façon à ce qu'il puisse circuler et à ce qu'il soit sur le site. Bon, je réfléchis à la question des classifications depuis assez longtemps. Depuis quelques années, avec un ami à la fois mathématicien et bibliothécaire, qui s'est efforcé lui aussi de repenser ce problème. Je crois que la problématique des classifications éclate en deux grandes perspectives très très différentes et qui ne communiquent pas l'une avec l'autre. Il y a d'abord la perspective de ce que j'ai appelé dans mon exposé des classifications phénoménales ou empiriques, hein, qui en gros correspond à la perspective des gens qui font ce qu'on appelle du clustering. C'est-à-dire que dans ce type de perspective, où il s'agit effectivement dans le champ des différentes sciences empiriques, de constituer des classifications sur la base de ressemblances perceptives, on définit dans une population d'objets un indice de distance qui permet de mesurer des proximités et donc de ventiler ces objets dans des classes d'équivalence si on a réussi à montrer l'existence d'une relation d'équivalence entre ces objets, c'est-à-dire d'une relation réflexive, symétrique, transitive. Si on a une relation simplement de ressemblance, c'est-à-dire réflexive, symétrique, mais pas transitive, ce à quoi on aboutit, ce n'est pas du tout des classes d'équivalence disjointes, naturellement, ce sont des classes de recouvrement, et par conséquent, on a des classes qui s'intersectent. Alors on peut faire à partir de là, quand on reproduit donc la démarche au niveau des classes, au lieu d'intégrer les classes dans des classes de classes et d'obtenir au final donc, une hiérarchie de partitions, lorsqu'on a au départ un recouvrement, on n'a plus qu'une hiérarchie de recouvrement et naturellement une arborescence qui suppose que le même objet puisse être ventilé dans différentes classes, ce qui n'est pas le cas naturellement quand on a une chaîne de partitions stricte. On peut naturellement affaiblir ces méthodes de toutes les façons possibles et imaginables, hein, c'est-à-dire que, au lieu d'avoir des classifications nettes, on peut avoir des classifications floues, au lieu d'avoir des hiérarchies de partitions, on peut se contenter de partitions, tout simplement, voire de partitions empiétantes, si on se donne une distance qui autorise effectivement des intersections non vides et la possibilité d'avoir dans les intersections de classe un certain nombre d'éléments. Toutes ces méthodes, finalement, aboutissent à la constitution donc, de classifications, donc, qui sont des classifications produites par une méthodologie ascendante, hein, bottom-up, pour utiliser la même terminologie que les scientifiques des sciences cognitives ou des nanotechnologies. Naturellement, il est aussi possible de procéder par voie descendante. C'est ce qu'ont fait en particulier les bibliothécaires au XIXe siècle quand ils ont essayé de classer les livres. Vous savez qu'au XVIIIe, on classe les animaux, on classe les flores, les faunes, la nosographie avec les maladies, les substances chimiques, naturellement, à partir de la fin du XVIIIe avec Lavoisier. Et au XIXe siècle, la connaissance ayant beaucoup proliféré, on se met à chercher à classer les ouvrages. Et naturellement, comment classer les documents ? Eh bien, c'est une classification de type pragmatique, et ce qui va prévaloir effectivement, c'est chez les auteurs de la fin du XIXe, Hautley, La Fontaine, Dewey, les fondateurs de la classification décimale universelle, c'est la possibilité donc de définir des classes au préalable, une dizaine de grandes catégories qu'on va ensuite subdiviser et qu'on pourra subdiviser indéfiniment. C'est le propre de la décimalité à partir du moment où on met des points ou des virgules, ce qui, dans les indices, ce qui permet naturellement d'augmenter indéfiniment les classes. Alors, généralement, les classifications descendantes sont considérées comme étant moins performantes que les classifications ascendantes, puisqu'elles obéissent à un certain nombre de présupposés. Au départ, notamment la fixation, par exemple, du nombre de classes. Et les problèmes qu'on rencontre dans leur formation sont très différents. Alors, toutes ces classifications dont je viens de parler jusqu'à présent, ce sont des classifications, je dirais, phénoménales, au sens où elles sont fondées, encore une fois, sur des ressemblances perceptives. Alors, dans mon exposé, je distinguais ces classifications phénoménales des classifications nouménales, en utilisant donc là une opposition de type philosophique. Le phénomène, c'est ce qui nous apparaît. Le noumen, c'est l'idée qu'on peut construire à partir, je dirais, de considérations d'un autre ordre qui font appel soit à de la mathématique, soit à de la physique, mais à des éléments qui renvoient à des invariants plus fondamentaux que tout ce qu'on peut construire sur la perception ou le sensible. Alors, il me semble que quand on considère la classification de Mendeleïev, par exemple, qui est stable depuis sa formation, pratiquement, elle est restée quasiment inchangée, si l'on accepte évidemment les écamétaux qui ont été synthétisés parfois 30 ans plus tard, mais qui se logent dans le tableau. Si l'on accepte également les transuraniens, enfin tout ce qui a été le produit de l'évolution de la chimie, l'intercalation des lanthanides et des actinides également. Mais enfin, grosso modo, je dirais le principe fondamental de la classification de Mendeleïev n'a pas varié. On peut considérer que cette classification est relativement stable. De la même façon, la classification des cristaux, a fortiori la classification des particules élémentaires en physique, ces classifications font appel donc à des structures invariantes, des groupes de symétrie en particulier, qui sont la raison d'être de la classification et qui donnent effectivement une certaine puissance explicative et prédictive à ce type de classification, qui me paraît, de mon point de vue, les rendre beaucoup plus stables, et qui, au fond, dénote une autre essence que les classifications qu'on peut construire à partir de simples formalisations de ressemblances purement perceptuelles. Alors, le problème, c'est que ces champs s'ignorent complètement. C'est-à-dire que d'un côté, on a les gens qui font du clustering, de l'autre, on a des gens qui font des classifications fondées sur des invariants mathématico-physiques plus ou moins abstraits. Du côté des mathématiques, naturellement, on a des mathématiciens qui classent les structures mathématiques. Alors, c'est la classification theory de Scheler, c'est toute la réflexion qui peut se faire sur la classification des structures mathématiques à l'aide de la théorie des catégories, par exemple. Bon, à l'aide d'un certain nombre d'autres théories, comme la théorie de l'information. Toutes ces mondes s'ignorent, et ce que nous essayons de faire, Pierre Neuville, donc de l'ENSIB et moi-même, c'est essayer de trouver des liens de coordination entre ces différents types de classifications et essayer d'unifier la théorie générale des classifications. Donc c'est d'un petit peu un programme de recherche encore plus que véritablement un résultat abouti, mais enfin c'est ce à quoi nous essayons de tendre, et c'est ce que je voulais présenter donc dans cette conférence que j'ai été amené à improviser également.